Merci beaucoup, beaucoup pour ces témoignages ce matin, cet après-midi, pour vos interpellations, vos remarques, vos commentaires pendant le repas de midi. Je relève deux choses à Montbéliard, une claire détermination pour être plus visible, au point qu'on nous demande de prier pour que la haie sèche. Voilà, claire détermination pour être vue, en passant par Bouche-Taville, le conservatoire, etc. Et puis un deuxième point qui me semble très, parmi d'autres, hein, mais que je relève en passant, qui me semble très pertinent à méditer, c'est cette détermination, pour prendre le même mot, à être prêt à changer. Ça nous coûte, selon les âges, ça coûte dans l'autre sens. En ce moment, j'ai souri de moi dans l'autre sens. Il y a quelque temps, quand j'ai eu quelques flashs, quelques souvenirs de ce que je méditais, ce que je comprenais à 7-8 ans, et je me suis moqué de moi quand je doute de ce qu'un enfant de 7-8 ans peut comprendre. Mais tu ne te souviens pas, Étienne, ce que tu entendais des cultes et ce que tu comprenais à 7-8 ans. Quand on est jeune, on a un regard bien imparfait devant les cheveux blancs. Quand on a plus de cheveux blancs, on a des fois du mal à accepter les jeunes. Et on a bien du mal à se souvenir qu'en tant qu'enfant, on comprenait déjà beaucoup de choses. Bref, que Dieu nous aide. Je commence avec trois versets qui nous disent ce que nous savons tous, mais ça introduit la deuxième partie, comment il faut mettre en pratique. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement, en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère non pas en l'écoutant pour oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son activité. Et ceux qui ne parlent que d'adaptation, de vision d'église, de projet, ne font pas mieux que celui qui oublie ce qu'il a lu. Mais ceux qui veulent se retrousser les manches et faire l'effort d'avancer, de mettre en pratique, sont heureux dans leur activité, nous dit la parole de Dieu. Point 2.1. Il est juste, il est biblique d'être concret et de s'interpeller les uns les autres. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on va faire? Voilà, remarque pratique, je vais faire la version courte. Premièrement, c'est le 2.2 ici, mais si on veut retenir quelques mots-clés, dans mes notes bis, c'est devenu le premier mot-clé, écoutez. Je vous suggère que nous repérions comme mot-clé, écoutez. Et c'est beaucoup ressorti dans les témoignages. Avec écouter, il y a la notion de prendre le temps. On a parlé non pas de semaines, mais d'années, à Montbéliard aussi, au Geisberg ici aussi, on a parlé d'années, si j'ai bien compris. Réfléchir, prier, 3 ans, prier sans trop voir ce qui se passe. Écoutez, là j'ai 2 sous-points tout simples. Écoutez les autres et écoutez Dieu. Pour travailler cette vision d'Église, pour mieux savoir où l'on va, comment, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'Église aujourd'hui, là où nous sommes, il me semble extrêmement important d'écouter. Alors tout d'abord, écoutez les autres, nos contemporains, notre quartier, le conservatoire, la mairie. Et je me sens en dessous de ce que je souhaite à tout chrétien quant à ma connaissance du monde actuel. Je suis un peu excusable, quoique, en tant que pasteur, ça allait mieux quand j'étais étudiant, mais en tant que pasteur, je dois me bousculer pour avoir des relations en dehors de l'Église. Une de mes grandes joies, c'est qu'un de mes meilleurs copains ne soit pas dans l'Église. J'ai hâte qu'il y rentre, mais c'est un non-chrétien du quartier. Et c'est un fantastique copain. On a vraiment besoin d'écouter nos contemporains, notre quartier, pour savoir à qui on veut présenter l'Évangile pour ceux qui ne sont pas encore dans nos murs. Donc il nous faut écouter ceux qui nous entourent. Avant d'arriver au point fondamental, écouter Dieu, j'ajouterai en petit b, il nous faut écouter ceux qui peuvent nous aider. Alors, on a cité Pascal Keller, il y en a d'autres, il y a toute une commission ministère, il y a des livres, il y a des pastorales CNEF, coup de pub, il y a des rencontres entre amis. Il nous faut écouter ce que les autres peuvent nous aider à mieux repérer. Voilà, tout un travail. Et puis bien sûr, petit c, du grand verbe écouter, il nous faut écouter Dieu. J'ai essayé de mettre en avant ce matin le côté spécifique de ce qu'on appelle une vision d'Église. Mais je suis heureux de dire cet après-midi que le côté spécifique n'enlève rien à l'enracinement nécessaire dans la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que je cherche à bien comprendre la rue des Charpentiers à Mulhouse et ce qui se dit dans la pensée contemporaine en 2014 que je ne dois pas être en cohérence maximale avec toute la parole de Dieu. Vous me suivez ? Spécifique, oui, mais à l'écoute de la parole de Dieu. Donc, étudions sa parole et cherchons des principes, j'ai fait quelques tentatives avec vous ce matin, dans la parole de Dieu, y compris pour ce qui est spécifique. Et puis, peut-être ce qui est le plus intime, le plus facile à négliger, la prière, le recueillement. Je vous ai dit cet élan du collège pastoral de l'église où je suis en disant « Ouh, il faut qu'on se réveille et qu'on arrête de parler que de chiffres et de tableaux et de comparaisons entre différents projets. Il faut qu'on réinvite l'église au recueillement. Une semaine de jeûne et prière. Les Moraves ont fait 100 ans, on peut bien faire une semaine. » Et là, tout ça, je le mets dans écouter, s'asseoir, se poser, écouter. Psaume 40, arrêtez, on nous l'a lu ce matin, non ? Merci. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Un des plus grands besoins de celui qui vous parle. Si vous voulez prier pour moi, voilà un sujet de prière. S'arrêter, écouter, ne pas toujours enfiler des perles les unes après les autres dans le collier de nos activités. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Tout ça, ça nous coûte parce que ça prend du temps. Avec le verbe écouter, il y a l'effort qu'il nous faut faire pour prendre du temps. Voilà, pour le premier mot, écouter. Deuxième mot, communiquer. Vous avez deux points ici. Écouter, je l'ai coupé en trois. Communiquer, je vais les regrouper. Communiquer la vision, communiquer la motivation tout d'abord. Oui, pour bien se mettre au travail tous ensemble, il faut commencer par réfléchir à ce qui peut nous motiver tous ensemble. Le travail sera d'autant meilleur qu'on est convaincu qu'il est important de le faire. Citation, ça m'a plu. Le travail sera d'autant meilleur qu'on est convaincu qu'il est important de le faire. Ouais. Donc c'est important de communiquer ce qui nous anime en cette journée, plus ou moins les uns les autres. Certains ont des années de réflexion, d'autres se lancent. Il est important, comme défi concret, pratique dans nos églises, de communiquer la motivation. Première étape. La deuxième étape, bien sûr, à mesure que la vision se dessine dans nos têtes, dans la tête de certains groupes, dans la tête de l'ensemble, il est important de communiquer à ceux qui n'auraient pas repéré, eux, la vision, ceux qui ne seraient pas dans ces groupes de réflexion, extrêmement important de communiquer la vision. Ça fait partie d'un défi reconnu difficile ce matin au Geisberg, je crois. Défi pour communiquer cette vision et que tout le monde la fasse sienne. Voilà, j'en dis pas plus. Écoutez, communiquez. Troisièmement, veillez. Dans les notes, c'est des erreurs à éviter. Oui, probablement. J'en ai recensé quelques-unes. Des pièges. Le premier, j'ai noté ici attachement excessif à la vision du moment. Je pense que c'est un danger. Il a tellement fait peur à certains qu'ils ont freiné de deux pieds devant ce qui reste bon quant à la formulation d'une vision aujourd'hui, ici, où nous sommes. Mais c'est vrai qu'il y a un danger à trop se focaliser sur ce qu'on a pris du temps à formuler et à perdre un tant soit peu la liberté de faire ce que le Saint-Esprit, formulation la plus solennelle, nous mettrait à cœur et qui ne rentrerait pas bien dans une de nos cases. C'est un danger. Danger inverse, numéro 2. Avoir travaillé, avoir discerné par la grâce de Dieu des choses précises, et puis finalement, la vie continue à peu près comme avant. On oublie, c'est le danger inverse. On n'est pas focalisé par la vision formulée, on l'oublie. Et c'est un petit peu ce qui nous est arrivé à Mulhouse après 4 ans. On ressort la vision, et on dit, oh oh, on l'a comme un peu oublié. Pendant une année, on a prêché, on a fait des études bibliques, on a motivé les groupes de maison. Puis 4 ans après, on dit, oups, elle est où la vision? Elle n'est plus beaucoup dans nos têtes. Et ça, c'est un autre danger, parce que si la vision est par la grâce de Dieu pertinente et qu'on a bien travaillé et que Dieu nous a aidés à discerner des choses importantes, ben, ça serait dommage que ça soit dans un placard. Écouter, communiquer, veiller. Dans veiller, j'ajoute aussi attention à ne pas perdre l'ouïe et à ne pas oublier que la vision doit être renouvelée. Je viens de dire ne pas l'oublier, mais au bout de 5-10 ans, peut-être avant, il est important de rester à l'écoute de qui nous sommes, où nous allons, qui sont nos voisins, et à renouveler cette vision, qu'elle ne soit pas figée. Voilà, et j'en arrive au point 2-6 de mes notes, proposition pour construire une vision d'église, ce qui est dans un sens le plus concret, mais tout ce que j'ai dit là me semblait être très concret déjà. L'écoute, la communication, la veille devant tout ce travail. Quelques pistes concrètes, et là je dois beaucoup à Donald Crabb que j'ai cité ce matin. Je reprends plusieurs choses qu'il a dites. Alors, il a dit quelque chose, vous l'avez dans les notes, qui n'est que la reprise de 5 questions qu'on pose souvent quand on veut travailler un projet. Qui, quoi, comment, pourquoi, où? Voilà, c'est pas compliqué. Bien, c'est très pertinent une fois de plus, mais on peut le décliner, on peut le méditer quelques minutes en relation avec notre problématique de la construction d'une vision d'église. Donc les questions sont là, voilà. Il en manque qu'une ou bien? Il y en a pas, la cinquième ne va pas s'afficher? Si. Non. Non, tant pis. Si. Voilà. Qui? Qui sommes-nous en tant qu'église? Et c'est important, je le redirai tout à l'heure, c'est très important de ne pas commencer par le cinquièmement. Mais c'est très tentant de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et je vous suggère de vraiment le garder en cinquièmement. Les activités, les choses concrètes. Premièrement, qui sommes-nous? Notre identité en tant que croyant, notre spécificité en tant qu'Église qui a son histoire, qui a son orientation théologique, qui a son appartenance à une union d'Église. Qui sommes-nous? Et cela va nous permettre de mieux comprendre en quoi nous pouvons être celles et lumières d'après ce que nous sommes. Pourquoi? Quelle est notre mission en tant qu'Église? Et là, je reviens à ce que j'ai dit il y a 10 minutes. Ce n'est pas parce que la vision que nous souhaitons formuler a des côtés spécifiques et qu'on veut être précis aujourd'hui dans tel lieu quant à ce que nous pouvons mettre en route. Ce n'est pas parce qu'il y a un côté spécifique que nous ne devons pas enraciner tout cela dans le pourquoi de la mission globale que Dieu nous confie à tous. Pourquoi nous faisons cela? Parce que Dieu est merveilleux, parce qu'il n'y a rien de plus beau que la grâce. Vous voulez connaître un des versets qui me scotche? Acte 80. Les disciples sont malmenés, persécutés. On leur dit de se taire. Vous vous souvenez de leur réponse? Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils sont coincés. Et ils disent aux autres, il ne faut pas nous en vouloir, on ne peut pas. On ne peut pas ne pas parler de ce qu'on a vu et entendu. Et moi, j'ai pu me taire dans des trains, sur des places publiques et ailleurs, dans des moments où j'aurais dû parler. Pourquoi? Parce que je ne connais pas assez le Seigneur. On ne peut pas ne pas parler de ce qu'on a vu et entendu. Pourquoi bouge ta ville? Pourquoi prêter ses locaux au conservatoire? Pourquoi vouloir rayonner? Parce que le Seigneur est bon, parce que l'Évangile est la plus grande des bonnes nouvelles. Où ? Dans quelle situation sommes-nous appelés à le faire ? Ça, c'est un peu en écho à ce que j'ai dit tout à l'heure concernant écouter nos contemporains. C'est vraiment dommage. Je pense que nos églises, votre union d'église, celle où je suis, ont des vécus assez semblables. Et il y a deux générations avaient quand même trop peu, aujourd'hui pas assez encore peut-être, le souci d'être compréhensible par nos contemporains. Où sommes-nous ? À qui parlons-nous ? Et on avait un peu trop l'idée qu'ils n'ont qu'à comprendre. Nous, on prêche, et eux, ils écoutent. S'ils ne veulent pas se convertir, ils en rendront compte à Dieu. Et tous ces jeunes, entre autres, puisqu'on les a cités tout à l'heure, qui ont à cœur, en particulier, de s'adapter et de parler un langage et d'utiliser les mimes et je ne sais quoi, et les slams, c'est pas idiot. C'est une façon de dire que c'est très bien. Parce qu'il faut qu'on soit compris. Jésus, il a parlé en parabole à une époque où on utilisait beaucoup les paraboles. Et un truc fantastique avec Jésus, c'est que si vous regardez le vocabulaire dans les paraboles, il est simple. Mon professeur de philosophie en terminale nous expliquait qu'il fallait accepter d'apprendre des mots compliqués parce que pour une pensée profonde, il faut des mots compliqués. Et c'est un peu vrai. La pensée s'enrichit avec le vocabulaire. Il y a des profs de français ici. C'est vrai. Mais du coup, on est devant un miracle avec l'Évangile. Parce que Jésus dit les choses les plus profondes qui soient avec des grains de blé, des semences, des semeurs, des cailloux, des épines. Mais c'est un miracle. Et nous, il faut qu'on apprenne du Maître qu'il est extrêmement important qu'on sache où nous sommes, question 3, à qui on parle, et à ne pas parler hébreu à des gens qui ne le comprennent pas, ou le patois de Canaan à des gens qui ne le comprennent pas bien, pas bien. Voilà, où nous sommes. Comment ? Le comment, je vois deux sous-points que je vous propose, pour être concret toujours. Il y a le comment de ce qui est correct d'après les principes que Dieu nous donne. Par exemple, je vais dire une évidence et je mets les pieds dans le plat, sans manipulation. Une évidence ? Oui, mais, ça nous guette. Sans manipulation. Ça, c'est le comment profond qui vient de l'enseignement de l'Écriture. On doit le faire avec honnêteté, en dépendant de Dieu. Et puis, il y a un comment encore plus concret, avec nos moyens. Certains savent jouer de la guitare, d'autres pas. Certains ont des groupes de louanges, certains en ont trois, il paraît. D'autres n'en ont pas. Voilà. Donc, comment ? Ça dépend de nos dons. Donc, il faut faire le point sur nos dons. Il y a des églises qui ont beaucoup de jeunesse. Ça serait bête que la jeunesse soit oubliée. Il paraît que ça arrive. Il y a des églises qui ont beaucoup de personnes d'expérience, les autres. Il faut les utiliser aussi. Comment ? Avec nos ressources. Et j'en arrive, finalement, mais seulement au quoi. Et le quoi, c'est les activités. Qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on a repéré ? À qui nous parlons ? Ce que nous sommes ? Comment on va le faire ? Avec quels moyens ? On arrive au quoi. Et là, je vous laisse un petit schéma de plus, la diapo suivante, qui peut nous aider à garder en tête des choses intéressantes, ce que certains appellent le triangle de la présence de l'Église dans le monde. Il y a d'une part, on doit placer nos activités dans ce triangle. En haut, il y a les convictions théologiques et ecclésiologiques. D'après la Bible, on ne peut pas faire des choses d'une certaine manière, qui serait fausse, pas juste, etc. Donc, nos activités doivent se faire à l'intérieur d'un triangle qui a comme angle les convictions théologiques et ecclésiologiques. Mais on veut faire nos activités aussi en bas à gauche, en relation avec la culture et le contexte, et on ne veut pas parler chinois à ceux qui ne le comprennent pas. Et puis, on veut travailler avec ce qu'on a. Et on ne va pas lancer un concert gospel si on n'a pas ce qu'il faut pour. Et on ne va pas lancer une soirée avec chorégraphie si c'est Étienne Gros-Renault qui pilote le groupe, désolé. Ça pourrait faire venir du monde. Mais ce n'est pas le but de rire. On veut montrer quelque chose de qualité, de bon, de beau. Donc il n'y a rien à faire. J'aime bien ce triangle. les enseignements théologiques bibliques, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ceux à qui on veut parler, la culture, le contexte, le quartier, et puis qui nous sommes, ce que nous avons, nos cinq pains et nos deux poissons, puisqu'avec vous j'ai le droit de parler le patois de Canaan, vous savez que c'est une histoire qui dit que ce qu'on a, on peut l'apporter au Seigneur, et il va nous aider, il va permettre que ça porte du fruit. Et, j'essaie de conclure, ça va ? Quelques mots-clés. Écoutez, ça vous va ? Écoutez les autres, Dieu. Communiquez. Il ne faut pas être des locomotives qui traînent des wagons qui ont du mal à suivre. Il faut demander à Dieu de nous aider à communiquer pour que ça soit porté ensemble et que la vision soit portable. Si on invente une vision qui est trop farfelue, il ne faut pas se plaindre qu'elle ne soit pas portée par les autres. Donc, écoutez, communiquez, veillez, attention au danger, trop le nez dans la vision, avoir travaillé, oublié la vision, une vision figée qui n'évolue plus. Veillez. Quatrième mot-clé, construire avec ce triangle que je vous invite à garder en tête, ou bien, j'ai commencé avec les cinq questions, mais je vous demande de vous souvenir que le quoi, il vient en dernier. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et pour terminer, sans dire de bêtises, je lis deux, trois textes bibliques. Psaume, vous les connaissez, 127, 1, 2, dans tout ça, on va se souvenir que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, 1 et 2, en vain, vous levez-vous tôt le matin, vous couchez-vous tard le soir. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il se repose. Et certains me lancent ce verset de temps en temps. Et oui, ce n'est pas plus on en fait, plus ça marche. C'est plus on est à l'écoute du Seigneur, plus la vie tourneront. Psaume 127, 1 et 2. Acte 13, l'envoi en mission. Acte 13, 2 à 4. Je glane deux, trois remarques de conclusion là aussi. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Qu'est-ce que je glane ici ? L'ordinaire d'une vie de piété, ordinaire dans lequel Dieu se révèle. Puissions-nous avoir des vies qui, dans l'ordinaire, permettent à Dieu de nous parler. Alors qu'ils étaient ensemble, on ne dit pas qu'ils ont créé un comité de missionnaires, alors qu'ils étaient ensemble pour jeûner, prier, comme d'habitude, le Saint-Esprit les a dirigés. Puissions-nous avoir des vies qui, dans l'ordinaire, nous permettent d'écouter Dieu. Troisième texte, 1 Thessaloniciens 4, le chapitre de la persévérance et des progrès. 1 Thessaloniciens 4, versets 9 et 10. « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous êtes vous-même instruits par Dieu en vous de l'amour réciproque. » Oh, incroyable. Il y a des situations où on ne peut pas dire ça. « Pour ce qui est de l'amour fraternel, c'est bon. » Verset 10. « Mais nous vous exhortons, frères, à progresser encore. » Peut mieux faire. Version spirituelle, pas du tout version ironique. On doit, pas peu, doit mieux faire. On doit toujours vouloir progresser pour l'honneur du Seigneur et pour la progression de l'Évangile. Ça doit être intentionnel. Voilà un des mots qui me titille depuis quelques années. Ces personnes qui ont eu raison, je pense, de mettre sur la table la notion de vie chrétienne intentionnelle. Ce n'est pas simplement que les choses arrivent, mais on veut contribuer à l'œuvre de Dieu. Et je termine avec une prière qui est dans plusieurs versets. « Seigneur, ouvre mes yeux. » Il faut qu'on voit. Psaume 119, 18, sur la beauté de ta parole. Luc 24, 45, il ouvrit leurs yeux pour qu'ils comprennent. « Seigneur, ouvre nos yeux pour que l'on comprenne et que l'on te suive. » Amen.